À voix nue, Caroline Brouet.
Laure Adler, journaliste, autrice, féministe.
Cinquième épisode, le corps, la tête et la chambre des femmes. Bonjour Laure Adler.
Bonjour.
Merci de nous recevoir chez vous encore pour cette dernière émission. En plus, c'est pas n'importe quel jour aujourd'hui, puisque nous enregistrons cette émission le 29 février. Non seulement on est le 29 février, ce qui est rare, une année bitextile 2024, mais au lendemain d'un vote par le Sénat de l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution. Donc pour la féministe que vous êtes, je pense que c'est un jour plutôt heureux.
Effectivement, c'est une grande conquête. Je pense que ça va marcher. C'est une lutte qui dure maintenant depuis 2 ans, qui est extrêmement importante, je crois, en ces temps où on voit bien que le droit à l'avortement a pu être remis en cause, notamment aux États-Unis, mais dans d'autres pays d'Europe aussi. Donc c'est vraiment un moment très important de la lutte des femmes.
Laure Adler, en feuilletant votre bibliographie, j'ai été frappée par le nombre de livres intitulés « Les femmes dangereuses suit ». Les femmes qui aiment sont dangereuses. Les femmes qui écrivent vivent dangereusement. Les femmes artistes sont dangereuses. Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses. Et je crois que c'est François Mitterrand qui vous avait qualifié, vous, de femme dangereuse en vous présentant à son ami Pierre de Bénouville. Alors, est-ce que vous êtes une femme dangereuse?
Je crois pas, non.
Je sais pas ce que c'est quoi une femme dangereuse?
Une femme dangereuse. Alors, c'est effectivement une collection qu'a fait Flammarion il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. Une collection dont le titre revient d'ailleurs à un historien de l'art allemand qui s'appelle Stefan Bollart, qui m'avait proposé d'accompagner par un texte une thématique d'histoire de l'art qui l'avait intéressé et qui l'avait inventé, parce que c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Stéphane, c'est-à-dire la manière dont, dans l'histoire de la peinture, les femmes qui lisent sont représentées, notamment 18e, 19e, 20e, début 21e siècle. J'avais trouvé la thématique très intéressante, ses choix passionnants, et j'avais commencé un travail d'accompagnement. Et à partir de ce moment-là, effectivement, il y a eu une déclinaison franco-allemande entre ces deux éditeurs dans différentes thématiques. Et là, je suis en train de travailler sur une thématique des femmes photographes. La dangerosité, pour moi, historiquement, elle s'inscrit dans une lutte pour l'émancipation des femmes. Les femmes artistes ont eu beaucoup de mal à devenir des artistes. D'abord, elles n'avaient pas le droit de s'inscrire à l'école des beaux-arts. Il a fallu attendre la fin du 19e siècle, les années 1880, pour qu'elles aient la possibilité de pouvoir s'inscrire pour apprendre l'art, et notamment parce que il y avait des modèles à l'école des beaux-arts et qu'on considérait que s'il fallait des modèles masculins pour les jeunes filles pour qu'elles puissent savoir faire des nus, on avait l'impression que l'ordre social allait complètement s'ébranler. Et donc la dangerosité indique l'idée que à chaque fois, mais c'est encore le cas hélas dans plusieurs domaines artistiques et c'est encore le cas dans le domaine de la peinture et des arts plastiques en France, encore aujourd'hui, savez-vous que la cote d'une femme qui est extrêmement haute, si on prend la cote d'une femme reconnue internationalement, eh bien, elle ne vaudra jamais mais c'est des différences entre 1 et 10. Donc, comment expliquer cela? Donc, dangerosité indique combat, émancipation, création, reconnaissance de cette création, possibilité de montrer cette création. Et à chaque fois, je vous assure, ça a été vraiment des difficultés et des adversités terribles.
Et pas seulement donc parce que votre première biographie était sur une empoisonneuse, Marie Lafarge. Vous avez, Laure Adler, consacré votre thèse et donc votre premier livre publié à l'aube du féminisme avec les premières journalistes femmes, donc entre 1830 et 1850. Mais c'est après avoir découvert le féminisme comme mouvement et après y avoir participé, puisque vous étiez dès le début aux côtés du MLF, ce mouvement de libération des femmes, dans lequel vous avez milité très tôt. Qu'est-ce que vous revendiquiez à l'époque?
On revendiquait notre propre indépendance, on revendiquait notre propre parole, on revendiquait notre propre être au monde, on revendiquait notre singularité. et on revendiquait notre possibilité de vivre notre vie sans dépendre de la domination, on disait pas patriarcat à l'époque, sans la domination des hommes. Pour autant, moi je vivais avec un homme qui était le père de mon premier fils, mais j'étais quand même une des rares à vivre avec un homme et à avoir déjà deux enfants, parce que je m'occupais aussi du fils de mon premier mari. Et le thème de la maternité, qui est un thème que j'ai essayé de pousser à l'intérieur de la section du MLF à laquelle j'appartenais, parce qu'on travaillait beaucoup. On se réunissait pas simplement pour le plaisir ou pour faire des manifs. On faisait aussi des réunions pour le plaisir et pour aller beaucoup dans les manifs. Mais on avait aussi des ordres du jour, des thématiques. C'était un travail intellectuel, un travail matériel, un travail de collecte, etc., etc. C'était le féminisme est quelque chose de sérieux. Le féminisme n'est pas une idéologie qui emporte des gens, comme le croient encore certains virilistes et certains machos impénitents, des hystériques mal baisés qui considèrent que les hommes sont des ennemis. Le féminisme, c'est un mode d'appartenance au monde. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, Michel Perrault l'explique très bien à l'intérieur de son dernier livre sur les féminismes. Il y a plusieurs types de féminismes. Il y en a toujours eu plusieurs. Il y a toujours eu plusieurs classes sociales qui ont développé un rapport à leur propre sexe pour pouvoir le défendre à l'intérieur d'une société qui les empêchait d'exister en tant que sujet.
Précisément, Laura Adler, en 75, puisqu'on est encore dans les premières années du mouvement féministe, en 75, est-ce que vous étiez plutôt Françoise Giroud, qui alors était secrétaire d'État à la condition féminine, et puis on sortait d'une année qui s'appelait l'année de la femme, ou est-ce que vous étiez plutôt les Insoumuses, du nom de ce collectif de cinéastes femmes qui s'opposait à la secrétaire d'État à la condition féminine en trouvant qu'elle n'était pas du tout assez radicale pour elle, qu'elle n'allait vraiment pas assez loin. Vous étiez de quel côté à ce moment-là? Dans quel féminisme?
Plutôt le mouvement radical.
Pourtant, François Giroud a toujours été un modèle pour vous. C'est ce que vous écrivez, c'est ce que vous dites.
Oui, mais Françoise Giroud était elle-même, et d'ailleurs... Elle l'a dit, hein, après être sortie de son poste de secrétariat d'État à la condition féminine, premier poste qui a été créé par Valérie Giscard d'Estaing. Même si ça nous fait pas plaisir, il faut quand même souligner, moi ça me fait plaisir de souligner que c'est un président de droite, Valérie Giscard d'Estaing, qui a créé le premier poste au secrétariat d'État à la condition féminine, poste qu'il a pris très au sérieux, puisque c'est grâce à lui et grâce à Simone Veil que nous avons eu la fameuse loi sur l'avortement. C'est grâce à lui que la reconnaissance des femmes en tant que sujet plein et entier à notre société a été de manière juridique entérinée. Et c'est grâce à lui que Françoise Giroud a pu faire beaucoup de lois, beaucoup d'appareils juridictionnels sur lesquels il serait un peu ennuyeux de discourir, mais qui est très important pour comprendre que les femmes, qui auparavant, par exemple, n'avaient pas le droit d'avoir un compte en banque, il fallait qu'elles demandent l'autorisation à leur mari, n'avaient pas le droit de pouvoir revendiquer une garde des enfants au même titre que les hommes, etc., etc., les femmes n'étaient pas encore des sujets pleins et entiers à l'intérieur de la société
française. Donc elle
française.
A fait beaucoup à ce moment-là.
Elle a fait beaucoup.
Alors pourquoi vous
sur
étiez,
le plan.
Pourquoi vous dites que vous étiez plus parce du côté qu'on des demand... insoumuses?
Bah parce qu'on demandait toujours plus et que la société elle-même et le gouvernement de Giscard d'Estaing a été obligé de freiner le mouvement de reconnaissance du droit des femmes pour des raisons économiques et c'est toujours la même histoire. On va pas revenir sur les années Giscard, mais le moment, la hausse du pétrole, les problèmes économiques du gouvernement, etc. Il y a toujours à un certain moment la cause des femmes qui devient moins importante que d'autres causes sociétales. Et donc, nous, à l'intérieur du mouvement des femmes, on s'est toujours situé à l'aile, disons, d'aiguillon. C'est-à-dire qu'on rappelait sans arrêt que la cause des femmes n'était pas une cause adjacente à la démocratie, n'était pas une cause secondaire de notre vivre ensemble, mais c'était une cause principielle pour pouvoir vivre dans une véritable république. Et c'est vrai que la cause des femmes, même si au début elle a été très soutenue par Giscard, elle apparaît toujours comme quelque chose qui est supplémentaire. Non, il faut que ça soit égalitaire. Et on n'y est pas encore aujourd'hui, en 2024.
On va y venir à aujourd'hui, bien évidemment, mais juste un mot sur les figures sur lesquelles vous avez travaillé, qui sont des figures amies, souvent, parfois, qui sont des figures féminines essentiellement dans vos biographies, Laura Adler. Marguerite Duras, Hannah Arendt, Simone Veil, la philosophe, Françoise Giroud, Charlotte Perriand, Ethel Adnan, Annie Ernaux, Agnès Varda, Françoise Héritier. Est-ce que toutes ces femmes, et aussi celles qui sont dans le livre Immortel, et aussi celles qui sont dans le dictionnaire intime des femmes, il y en a beaucoup, beaucoup. Est-ce que toutes ces femmes ont un point commun pour vous, pour que vous les choisissiez, pour que vous y consacriez une partie de votre vie et de votre recherche?
Ben, le point commun, c'est l'admiration que je reporte. Et le point commun, c'est le désir modeste que j'ai d'essayer de transmettre ma passion amoureuse avec ces personnes qui sont notre panthéon des femmes. Ces femmes-là ne sont pas assez mises en avant, ne sont pas assez mises en lumière. Et je crois, en tout cas, moi, c'est comme ça que je procède dans ma vie. Donc, je pense que d'autres femmes aussi peuvent réagir comme moi. Je pense que si nous connaissions véritablement notre histoire, si dans les manuels d'histoire avec un grand H, il y avait plus de modèles de femmes auxquelles nous, les femmes, mais aussi les hommes, nous pourrions nous identifier, ça nous donnerait encore plus de force. Et je trouve révoltant l'idée que ces femmes-là ne soient pas exactement à la même place que des hommes. Les femmes aussi ont fait l'histoire, y compris les révolutions. Et cette part de l'histoire des femmes est terriblement méconnue. Donc moi, modestement, si je m'attache à des femmes, c'est pour essayer, à travers l'histoire d'une figure qui généralement est exceptionnelle, par son engagement, par son courage, par sa détermination, par son volontarisme, essayer de raconter tout un siècle d'histoire des femmes. Je pars du « je » pour aller au « nous ». J'essaye, en tout cas.
Aujourd'hui, ce serait laquelle? Aujourd'hui, dans une époque MeToo. D'ailleurs, est-ce que c'est une révolution, MeToo?
Oui, c'est une révolution exceptionnelle, extraordinaire, fondamentale. Jamais je n'aurais imaginé que cela puisse être possible. Parce que vous savez, pendant des décennies, c'était super ringard de se dire féministe. Y compris nos propres filles, y compris les miennes, qui me disaient « Mais pourquoi tu continues à aller à des manifs? Pourquoi tu continues à aller à des réunions? Tout le monde est féministe maintenant. » Je leur disais « Mais c'est pas vrai. Il faut continuer à lutter. Il y a beaucoup de droits qui n'ont pas été obtenus. Il y a beaucoup d'inégalités structurelles, beaucoup d'inégalités socio-professionnelles, beaucoup d'inégalités sociales aussi. Mais où on est? On est dans un pays qui s'appelle la France. » Et encore aujourd'hui, étant donné que les filles sont de plus en plus cultivées, étant donné que les filles ont de plus en plus de diplômes, plus que les garçons, on arrive à une situation aussi absurde et scandaleuse que celle-ci. Une fille qui a plus de diplômes qu'un garçon est payée moins, ça va de 17 à 25% en moins, parce qu'elle est une fille. Mais on est tombé sur la tête. Et moi, je voudrais rendre hommage à la personne qui a inventé MeToo, qui est une travailleuse sociale du Bronx, donc un quartier déshérité de New York, qui s'appelle Tarana Burke, et qui, pendant des années, en tant que travailleuse sociale, a porté secours à des jeunes femmes qui étaient dans la précarité et qui essayaient de les accompagner pour sortir de cette précarité, évidemment matérielle, mais aussi psychique, et qui entendait toute la journée le fait que ces jeunes filles avaient été violées, avaient été agressées, avaient subi des accidents si forts à l'intérieur de leur être qu'elles en étaient brisées. Et un soir, elle est rentrée chez elle et sur son ordinateur, elle a dit « Me too ». Et à partir de ce moment-là, le monde du cinéma, avec les actrices, à continuer ce combat qui a été initié par cette femme extraordinaire qui continue aujourd'hui son travail dans le Bronx. Ce n'est pas simplement un mouvement d'intellectuels, c'est pas simplement un mouvement d'actrices, c'est un mouvement qui s'élargit à toutes les classes sociales et qui concerne tout le monde et solidaire. Solidaire des personnes les plus fragiles, peut leur venir en aide et qui peut aussi, par ce mouvement de solidarité qui rejoint l'intimité de notre être, parce que un des cœurs battants du féminisme, c'est que quand on a été abusé sexuellement, quand on a subi des violences sexuelles, nous, les femmes, nous pensons que c'est de notre faute. Donc, nous pouvons taire pendant des années, quelquefois pendant des décennies, des choses qui nous sont arrivées parce que nous nous disons que nous avons honte et que c'est nous qui avons dû les provoquer. C'est-à-dire que ce système victimaire est tellement inscrit à l'intérieur du fonctionnement de la domination du patriarcat que c'est nous qui nous sentons coupables. Et ce à quoi nous assistons, notamment depuis ces derniers mois et notamment depuis la parole de Judith Godrej qui est en train de réallumer un feu dont les braises n'étaient pas encore heureusement éteintes, est en train de recréer un mouvement de solidarité, un mouvement d'énonciation, un mouvement de prise de conscience. Dans l'intervention qu'a faite Judith Godrej au César
2024,
enfin, son texte était très beau, vraiment bravo. Elle a dit quelque chose qui me semble très important. Elle a dit, il faut se méfier des petites filles, parce que les petites filles, elles rebondissent. Et si vous voulez, cette parole-là, elle est très importante pour tout le monde, quelle que soit la génération. C'est-à-dire que être une petite fille aujourd'hui en 2024, être une jeune fille en 2024, être une femme de 20 ans, de 40 ans, de 60 ans ou de 73 ans comme je le suis, ça forme un bloc, ça forme un tout, ça forme une communauté. Nous n'avons plus honte d'avoir été agressés. Nous avons pris conscience que la possibilité d'avoir été agressée, qui a été suivie d'un silence accompagné d'une honte qui a empêché de respirer, de nous épanouir, est quelque chose qui va emporter, je pense, le féminisme extrêmement loin. Et moi, je considère que la possibilité de l'inscription, de la légalisation de l'IVG à l'intérieur de la Constitution française est une pierre importante à la reconnaissance, c'est quand même absurde de dire ça, mais c'est la vérité, de l'égalité femme-homme.
Laure Adler, la même Judith Godrej, quelques semaines, quelques jours avant son intervention au César 2024, vous avez interpellé dans une émission, c'est ce soir, sur France 5, dans laquelle vous êtes chroniqueuse, vous avez interpellé en disant que vous l'aviez blessée quelques années avant, quand elle avait 21 ans et qu'elle avait sorti son premier roman qui racontait son histoire.
Pas du tout, hein. Ça Alors, raconte pas du tout son histoire.
Ce qu'elle dit, elle, c'est que ce roman raconte sous forme romancée son histoire. Et elle dit, elle vous avait reproché de faire partie d'un système qui a rendu possible un aveuglement collectif, peut-être un aveuglement collectif au nom de l'art, au nom des artistes. Vous lui avez présenté vos excuses ce soir-là, sur le plateau de C'est ce soir, mais avez-vous compris?
Enfin, je lui ai dit que si je l'avais blessée, je présentais mes excuses.
C'est ça. Avez-vous, au-delà de ces excuses, est-ce que vous avez compris ce que vous disait Judith Godrej ce jour-là? Est-ce que il est possible que vous-même, vous ayez fermé les yeux sur certains agissements, c'est pas évident de le dire, mais certains agissements de certains hommes, au nom de l'art, au nom des artistes que vous connaissiez?
Non, je ne crois pas. Je pense que j'appartiens à une discipline qui s'appelle l'histoire des mentalités, J'ai eu des professeurs comme François Furet, Jacques Ozouf, Michel Perrault, Jean-Paul Aron, qui nous ont appris que le mouvement même de l'histoire était par essence fluide et que tout dépendait de la manière dont la société s'organisait et que être un enfant au XVIIIe siècle n'était pas être un enfant au XIXe siècle. Être une femme qui luttait contre le joug de l'oppresseur masculin pendant la Révolution de 48 n'était pas être une femme qui était sur les barricades de la Commune, etc.
Et que là, vous appartenez à une époque.
Ben, je pense que j'appartiens à une époque. J'ai traversé des époques tout en demeurant féministe et en me faisant beaucoup moquer de moi-même, où le système de représentation du désir masculin a été prédominant. Je veux dire par là que malgré moi, c'est pour ça que j'ai fait mes excuses à Judith Godrèche, c'était des excuses tout à fait sincères. D'abord, je n'avais pas l'intention de la blesser, bien évidemment. Mais ce qu'elle me disait, c'est que finalement, j'aurais peut-être dû lui porter secours. J'aurais peut-être dû...
Vous n'avez pas vu. C'est ça qu'elle vous dit. Mais vous n'avez pas vu.
Le livre, qui d'ailleurs était très étonnant, le premier livre de Judith Godrèche, parce que c'était une fille extrêmement intelligente et extrêmement sensible et hyper construite intellectuellement, est un livre sur le vol de l'enfance. C'est l'histoire d'une fille qui se balade dans les rues d'une grande ville et qui va voler un enfant. Donc, c'est le vol de l'enfance. Il n'est pas question de sexualité, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu, cette histoire de sexualité. Et donc, peut-être qu'elle considérait, à juste titre, étant donné qu'elle était dans une grande souffrance, que ce livre allait être décrypté par des personnes comme moi qui allaient comprendre ce qu'elle ne disait pas. Et ce qu'elle ne disait pas, peut-être j'aurais dû le comprendre. Vous voyez ce que je veux dire?
Mais parce que elle considéra aussi que tout le monde à l'époque savait qu'elle avait été une, elle avait 21 ans, elle venait de quitter Benoît Jacquot, avec qui elle était restée 6 ans.
Moi je le savais pas, hein.
Et donc tout le milieu le savait.
Ben moi je le savais pas, hein. Si je commençais à connaître la vie privée de tous les invités que j'ai eu, dans mes émissions, j'aurais pas pu faire mes émissions. Moi, ce que j'avais lu, c'était le livre, c'était les films qu'elle avait fait, etc., etc. Mais là où elle a raison, c'est qu'on est en train, simplement, de sortir d'un monde dont nous, y compris moi, je me mets moi dans ce « nous » collectif, nous avons été complices d'une certaine hyper-sexualisation de la jeune fille.
Les années 80 en particulier.
Et elle sévissait partout, dans les publicités, dans les rues des grandes villes, dans les romans qu'on achetait et qui se vendaient extrêmement bien, dans les représentations cinématographiques et dans ses films. Et tout le monde consentait à ça. Et peut-être que la mère en moi aurait dû être alertée.
Et c'est peut-être une difficulté de compréhension entre les générations aussi, de fait, qui s'exprime aujourd'hui
parce que même quand on est d'une génération issue de 68, qui voulait la libéralisation des mœurs, la reconnaissance de la sexualité, la liberté sexuelle, etc., etc., qui ont été des choses extrêmement importantes dans notre société, eh bien, on peut se remettre en cause. Et regarder autrement, c'est ce que je fais en ce moment d'ailleurs, je ne vois plus les films d'autrefois avec les mêmes lunettes, et il y a des intellectuels comme Iris Bray ou Laure Murat qui m'y aident. Donc il est toujours important de se remettre en cause, de déconstruire des clichés dans lesquels, contre notre gré, nous étions empêtrés, et de trouver un autre cheminement.
Laure Adler, on arrive au terme de ces entretiens très denses. On va parler d'aujourd'hui, de votre nouvelle vie d'étudiante, puisqu'en fait, vous faites comme votre père, hein. Il était étudiant aussi quand il était âgée, comme vous, puisque vous parlez de votre âge sans aucun problème. Vous avez même écrit un livre sur le fait de vieillir. Vous faites partie de façon militante du Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Vous avez consacré un documentaire à la révolte des vieux, défense et illustration donc du vieillissement de la vieillesse. Vous prenez des cours d'histoire biblique à l'Institut catholique.
Il y a des jours meilleurs que d'autres.
Bon, hein, bien sûr. Vois. Et puis, vous suivez un séminaire d'éthique clinique à l'hôpital. Et puis, vous vivez de toute façon entouré de jeunes. Il y a vos enfants, il y a vos petits-enfants. Et puis, il y a tous ces enfants qu'on a entendus tout au long de ces entretiens, puisque vous vivez au-dessus d'une école primaire. Vous vous occupez beaucoup de vos petits-enfants? Vous êtes
pas
une grand-mère
assez.
Heureuse?
Pas assez.
Encore pas assez, parce qu'en 2017, vous écriviez dans votre dictionnaire intime des femmes à l'entrée grand-mère que vous étiez pas assez présente, pas assez disponible, pas assez patiente. Vous éprouviez de la culpabilité tout en me disant, je vous cite, que le temps viendra où je serai grand-mère à plein temps et non plus intermittente. Ce temps n'est toujours pas venu ?
Pas encore. Enfin, on se sent toujours coupable, nous les femmes, vous voyez. Mais c'est vrai que j'aimerais bien passer beaucoup plus de temps avec eux.
Parce que vous faites beaucoup
Mais
de choses encore.
Je
vous apprenez du piano, vous êtes engagée auprès d'associations. Enfin bon, vous faites énormément de choses. Ce qui fait qu'à la fin d'une émission de France Culture, en 2017, là encore, vous disiez que le temps de la retraite allait sonner. Bon, il a fallu que vous attendiez encore 6 ans. Hein, et que vous n'aimiez rien tant que lire sous la couette ou regarder des films. Vous nous démontrez le contraire, donc...
Mais si, mais sous la couette, on peut faire beaucoup de choses.
Ah, hein. Dernière question, Laura Adler. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, que vous n'accepteriez plus, que vous feriez autrement?
Oui, j'ai un regret très grand. C'est que à l'âge de 22, 23 ans, j'ai voulu devenir psychiatre. Et c'était trop tard. J'ai quand même essayé. J'avais fait des études de philo. J'ai jamais été douée en maths ni en physique-chimie, mais j'ai quand même essayé de passer ma première année de médecine. J'ai jamais autant travaillé de ma vie et j'ai échoué. Pas de beaucoup, c'est ça qui m'a agacée. Il y avait une ligne rouge et j'étais troisième après la ligne rouge. J'étais mère de famille, j'avais des responsabilités, il fallait que je gagne ma vie. J'ai pas recommencé, d'ailleurs je pense que j'aurais échoué la seconde fois. Mais encore aujourd'hui, je regrette infiniment de ne pas être psychiatre.
Regrettez pas trop, puisque la plupart des gens qui sont passés dans votre studio de radio ou sur les plateaux de télévision qui ont été reçus par vous, et des auditeurs et des auditrices qui vous ont longtemps écouté, Laura Adler, disent que votre studio de radio était un cabinet de psychanalyse.
Ah bon,
vous voyez, finalement,
d'accord.
Vous y êtes parvenu. Merci, Laura Adler.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue avec Laura Adler, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Hervé Dubreuil, réalisation Manouchak Fachaï, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.